amica di letteratura paesana, a me Mahmoud Alaya. E a questa sera ben l'astre di ricevere di nostro studio di Radio Languedoc l'ugagnon del premio, il premiat del premio Louis Malassi 2010, il signor Mamadou Sissoko.
Adicias, donc je suis très heureux là aujourd'hui que nous recevons Mamadou Sissoko, qui est lauréat du prix Louis Malassi 2010 pour son livre Dieu n'est pas un paysan, édité chez la Présence africaine et le Grade. Et bon, ce livre, moi je vais en dire quelques mots parce que maintenant nous avons la chance d'avoir avec nous Mamadou qui va nous en parler beaucoup mieux. C'est un plaidoyer pour la cause paysanne, particulièrement en Afrique. Mamadou milite, disons, dans ce livre pour la reconnaissance des paysans africains comme partenaires à part entière dans le développement. Hein. Il décrit un peu comment, justement, il est parti de la base pour organiser une première organisation paysanne au Sénégal. Et puis... le mouvement a bien pris et puis maintenant c'est devenu tout un réseau dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et toujours avec le même objectif, disons, faire en sorte que les paysans ils aient une confiance en eux et ils s'organisent pour avoir une solidarité, pour pouvoir parler comme partenaire vis-à-vis des pouvoirs publics parce que souvent ils ont été un peu menés en bateau, manipulés, etc. Et donc Mamadou Sissoko va nous raconter ça, comment il l'a vécu pour faire revivre, remonter le courant en quelque sorte pour redonner confiance aux paysans et faire en sorte qu'ils soient les vrais partenaires du pouvoir pour leur organisation. Alors, on va lui donner la parole hein, pour nous expliquer comment d'où il est parti hein, et comment il s'y est pris, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées et puis comment ça, le mouvement a pris. Quoi.
Alors, moi, j'ai une petite question d'abord, la genèse de votre expérience, ça vient d'où?
Oui, c'est tout simplement parce que 85 à 90% des Africains de chez nous, c'est-à-dire le Sahel ou l'Afrique de l'Ouest, sont des fils ou petits-fils de paysans. Donc, depuis la naissance, nous vivons ce que nous appelons les sociétés rurales, leurs contraintes, tout ce que les gens font, comment ils vivent. Donc, ça, ça fait partie de nos gènes. Et j'ai aussi été instituteur pendant 4 ans en milieu rural où j'ai pu vivre à fond la coupure, la rupture entre les paysans et leurs enfants et leurs petits-enfants. Et ce qui est venu de l'histoire coloniale, parce que les enseignants au temps de la colonisation, disait « Celui qui ne travaille pas bien, il va aller cultiver. » Donc, c'était clairement que l'agriculture s'est faite pour ceux qui n'ont pas réussi. Et c'est là, quand j'ai vu, je n'ai pas duré là-dedans, c'est 4 ans, mais j'ai essayé, avec les autres instituteurs, de qu'on débatte de l'école, de cette école, des méthodes d'enseignement, de la pédagogie, et la majorité des gens disaient « Attends, je pense que tu veux rentrer dans une affaire compliquée parce que ce qui se passe, c'est déjà fini. Quoi. On ne peut plus revenir sur ça. Il y a donc la réussite, ça va être du côté de l'école et de ce que l'école dit, et l'autre partie, ça ne serait rien. » En un mot, voilà ce qui m'a vraiment marqué dans ma tendre jeunesse, dans l'adolescence, pour dire est-ce que réellement c'est impossible de faire quelque chose. Est-ce que vraiment ils ont raison? Est-ce que moi je suis un rêveur ou bien je suis fou? Alors donc c'est à partir de là que j'ai dit bon, je vais être de l'autre côté. Déjà je viens de l'autre côté parce que je suis aussi fils de... Mon père était un ouvrier, mais un ouvrier qui ne savait ni lire ni écrire en français, qui n'a pas fait l'école, et évidemment il est fils de paysan. Donc j'ai dit bon, moi je vais retourner chez moi pour voir si les autres ont raison.
Et donc vous êtes revenu à vos origines, à la terre. Vous êtes revenu à la terre, vous avez laissé les livres et vous êtes revenu à la terre.
Oui, mais avant, même pendant ce moment, j'étais toujours dans les deux. Parce que pendant les vacances, on était aussi dans les terres. Mais j'ai fait la rupture. J'ai dit, bon, cette partie-là, je vais la mettre de côté, c'est-à-dire l'enseignement, etc. Et je vais essayer de voir. Mais je ne savais pas quoi ni comment. Hein? Ouais. Donc je suis tombé, comme on dit, en marchant. Je suis arrivé dans un village qui s'appelle Bamba Tchalen. J'ai rencontré des hommes qui réfléchissaient aussi, mais pas dans la même, dans le même sens que moi. Et ils n'ont pas fait l'école. Et c'était des gens qui ont fait l'école coranique, qui était aussi très dure. Et donc, on s'est rencontrés. Et à force d'échanger, pendant 18 mois, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on va faire?
Et 18 mois.
18 mois. On ne faisait que réfléchir. Bon, on n'était pas dans, dans une maison fermée. On était dans la vie, la vie de tous les jours, mais on revenait sur les questions. Par exemple, pourquoi nous ne sommes pas dans une dynamique de mettre en œuvre nos valeurs culturelles, par exemple? Pourquoi nous n'appliquons pas correctement les 10 commandements qu'on retrouve dans l'islam? Donc on était sur pourquoi les choses... De chez nous ne se font pas normalement comme nous le pensons, comme nous le voulons. Et donc à l'éducation il y a beaucoup de valeurs positives, le respect des anciens, par exemple dans les différentes cultures on dit l'honnêteté c'est une valeur sacrée, il ne faut pas mentir, il faut travailler, il faut être solidaire, toute une bible de choses qui viennent de nos ancêtres et qui ont été distribués dans l'éducation à nous tous. Et donc, au nom du ciel, pourquoi on n'arrive pas à avoir des sociétés qui fonctionnent sur ces règles?
Alors, comment ensuite vous avez réussi à faire une structure pour justement ne pas oublier comment est-ce que vous en êtes venu à écrire, puisque
oui,
c'est surtout oral. Hein,
oui, mais c'est-à-dire ce qui était important pendant ces 18 mois, c'est que nous avons réfléchi pour dire quelle serait pour nous une société à peu près correcte. Donc on n'a pas dit idéal ou le meilleur, mais à peu près correcte. C'est-à-dire où on pourra essayer de faire éclore ses convictions. Et on a fait deux choses. On a revisité les coutumes, les mœurs, et on a revisité le Coran, parce que nous sommes 95% de musulmans. Alors, on a regardé dans le Coran qu'est-ce qui est important. Et quand on a regardé l'ensemble du Coran, nous avons dit qu'il y a deux choses importantes que nous avons retrouvées, c'est que nous sommes responsables de notre vie. Que quand Dieu nous a créés, il nous a rendus responsables de notre vie. Bon, tout le reste, c'est bien, mais ça, pour nous, c'est le centre de la création et du Coran. Et donc, quand on a dit, on a regardé ça, on a dit, bon, si Dieu, qui est le suprême, nous a rendus responsables, est-ce qu'il est admissible que au-delà de Dieu, un autre pouvoir ou une autre personne puisse nous enlever ça? Bon, donc le cœur de notre consensus, c'est nous sommes responsables de notre vie. Première chose que nous avons pu trouver. Et en revisitant les coutumes et les mœurs, on a vu que toute l'éducation était autour de ça. Tu dois travailler, Tu dois, tout ça, c'est pour que t'as cette responsabilité, tu l'assumes. Et donc, on a dit, bon, alors, nous allons mettre une charte pour que... parce qu'on n'était pas encore dans rien, on était dans quelle est la société qui serait la mieux pour nous. Et la charte, nous l'avons appelée une profession de foi. Et nous avons essayé de dire sur quoi cette responsabilité va être communautaire, parce qu'elle n'est pas individuelle. Et comment nous avons pu faire cette analyse spirituelle et philosophique? Nous avons dit, quand on prend un enfant, un bébé, on le pose, et tout le monde s'en va le laisser, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont dit, mais il va mourir. Mais on a dit, comment il va mourir? Ah, parce que le bébé n'est pas capable de se prendre en charge. Donc, la responsabilité, elle vient après. Au début, c'est ensemble pour s'occuper de chacun. Donc, à sa naissance, l'être humain ne sait rien, n'a rien et ne peut rien. Ça, c'est le premier principe de la profession de foi. C'est marqué dans le livre. Alors, le deuxième principe, pour vivre à partir de la naissance, on s'occupe de lui. Et jusqu'à l'âge de raison, c'est cela qui est une dette. Mais une dette que cet être humain né ne peut pas valoriser financièrement. Parce que c'est tellement lourd l'éveil des parents. Quand tu es malade, on t'a amené chez des guérisseurs. C'est toute une société qui, pendant 10, 15 ans, tu as pompé le travail, les richesses de toute une société pour, avant d'être toi-même dans la société. Et ce temps, c'est une consommation qui n'est pas valorisable matériellement. Donc, c'est ça qui est la dette que tu dois éternellement à ta communauté. Tu ne peux pas la payer en mettant des milliards, tu ne peux la payer qu'en t'investissant dans cette communauté pour apporter toi aussi ta part. Et donc, c'est ça que nous avons dit. À ma naissance, je n'ai rien, je ne sais rien, je ne peux rien. J'ai été pris en charge par mes parents et d'autres, et cela est une dette. Et pour continuer de vivre, je ne peux pas moi seul m'occuper de tout. On ne peut pas être tailleur, scientifique, docteur. Donc, on a toujours besoin de cette communauté. Et cela, c'est ce que nous disons, l'homme est le remède de l'homme. Et donc, l'homme est le remède de l'homme qui est la base pour pouvoir assurer cette responsabilité. Tu ne peux assurer la responsabilité divine de ta création que quand tu acceptes d'être dans la communauté des hommes et ensemble mettre et régler. Mais dans cet homme et remède de l'homme, c'est toujours ensemble pour lutter contre ce qui n'est pas bon, parce qu'il y en a, et ensemble de lutter pour améliorer ce qui est bon. Et quand on est arrivé au bout de ça, on a dit on va faire quoi? On dit ah, maintenant on peut se mettre ensemble dans une association pour essayer de vivre cela. Donc, responsabilité au cœur. Jamais plus on ne dira que ceux qui sont nuls seront des paysans, parce que ce n'est pas vrai. Et donc, démontrer qu'on est venu maintenant pour dire qu'est-ce que nous représentons. Et on a regardé. Quelle est la base de la vie? C'est l'alimentation. Qui produit l'alimentation? Nous. Donc, ce sont les nuls qui ne sont pas dans l'agriculture. Ce sont les vrais qui sont là, parce que c'est eux qui produisent à manger. Donc, on a renversé et on a commencé à dire, tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas fiers de notre travail, nous ne savons pas ce que notre travail apporte à l'humanité, nous allons toujours penser que nous ne sommes rien. Et il fut un moment, au moment où les gens vont à la police pour chercher des cartes d'identité, quand on demandait aux agriculteurs, toi tu fais quoi? Il y en a qui disent, je ne fais rien. Parce qu'être paysan, c'est rien. Donc tu préfères dire que tu es chômeur que de dire que tu es agriculteur. Et donc quand nous qui avons fait l'école, et c'était ou bien l'école coranique, donc quand des gens qui ont fait quand même, qui ont appris des choses, disent, nous notre priorité c'est d'être agriculteur, on a cassé. Donc l'ombre, on a amené la lumière. Et les gens, en ce moment, maintenant les gens ont commencé à dire, il faut que cela soit connu de tout le monde. Et c'est ça qui a fait que nous avons fait une association pour s'occuper maintenant de notre vie. C'est-à-dire que la responsabilité, ce n'est pas seulement dans la théorie, c'est de pouvoir produire mieux, se nourrir mieux, vivre mieux, etc. Donc, cette association, c'est le comité de développement de Bamba qui a été la première association. Et c'est des gens qui ont entendu ça dans d'autres endroits qui ont dit, mais comment vous, vous avez fait ? Et on leur a expliqué ce que je viens de dire en deux mots. Et ils ont dit, mais nous aussi, on va aller réfléchir chez nous parce que nous ne sommes pas dans les mêmes endroits. Et petit à petit, il y a eu plusieurs comités et nous avons créé l'entente des groupements associés au Sénégal, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans cette dynamique. Donc, on va se retrouver. Mais au moment où nous, on faisait ça, il y a dans d'autres régions du Sénégal, d'autres groupes qui commençaient à réfléchir parce que en 73, il y a eu la grande sécheresse qui a tué des animaux, des personnes. Et le premier réflexe des gens, c'était de dire, on va tous partir. Parce que ça, ça ne va pas, les jeunes. Il y a des gens qui ont dit, mais est-ce que c'est ça la solution ? On va aller où ? Mais on va aller dans des endroits où peut-être ils ont eu des problèmes aussi. Donc pourquoi ne pas commencer à réfléchir à nos problèmes ? Parce que depuis la féodalité jusqu'aux indépendances, les autorités politiques ont créé une dynamique de « on va s'occuper de vous, les rois, hein, les princes, après les élus ». Ils font des missions et quand ils viennent, les gens disent « on a des problèmes », ils disent « on va s'en occuper ». Ils disent jamais « occupez-vous de vos problèmes ». Parce que c'est ça qui crée le lien de l'attente chez les peuples et de la reconnaissance que c'est l'autre qui peut régler le problème. Et voilà comment les gens dans l'histoire sont devenus attentistes. Parce qu'ils pensaient que c'était comme ça la règle. Comme le roi, c'est lui le roi, il a l'armée, peut-être qu'il a toutes les solutions. Voilà.
May certain the jor, ya mom lile. May certain the jor, ya mom lile. May certain the jor, ya mom lile. New way bill mine. Fumi yendo ya mom lile buri sambalobe ya mom lile buri sambalobe ya mom lile ne woy biri mai fumien mayen fayen sama waji tendu yam nane oi bima fuyendo fuyendo nane
toujours à l'écoute de Radio Languedoc, 95.4 et Montpellier 7 à l'essentiel Spongedez, Mia au sud d'Avairon, 91.00 Mendeluzer et de Pelmonde entier sur la télé informatique www.radiolengadoc.com en compagnie à cette série de Mamadou Sissoko, premiat donc del premier Louis Malassi 2010 pour un livre qui se titule Dieu n'est pas un paysan. Alors, Mamadou, après toutes ces histoires de rencontrer les paysans, de décider un peu de faire le choix de se sortir soi-même des problèmes, ça a rencontré tout de suite un enthousiasme, il y a eu une adhésion massive.
Ouais, pas massive, hein. Parce que c'est difficile, hein. Parce qu'il faut faire pression sur soi-même, il faut faire l'autocritique, il faut se remettre en cause. Et ça, ce n'est pas facile chez les humains. Mais il y a eu un groupe, des groupes, on a été, mais on était minoritaires. Ah. Et on a eu quand même, on était dans un contexte de tout État. Donc, le gouvernement d'Afrique de l'Ouest, de l'époque, avait décidé que tous les paysans s'organisent seulement en coopérative. Donc, ce n'était pas un problème de choix. C'est comme quand vous êtes né dans un pays, ben, vous êtes citoyen de ce pays. Bon, on ne vous demande pas. Alors, donc, nous, le principe de coopérative est formidable. Mais c'était l'administration de la coopérative qui ne marchait pas. Parce que ce n'était pas la responsabilité des paysans de décider de tout. Ils étaient dans la coopérative, mais il y avait des encadreurs, il y avait des... Il y avait une administration publique qui avait mis la main mise sur l'institution. Et donc, on a dévoyé ce qui était important dans une coopérative. Mm-hmm. Hein, c'est dans la liberté des gens de décider d'abord s'ils sont dedans ou pas. Première liberté. Deuxièmement, de décider de son fonctionnement, de sa gestion, etc. Tout ça, c'était fait ailleurs. Donc, nous, on n'était pas dans une dynamique de rentrer dans cette affaire. Et donc, c'était compliqué.
Vous étiez plus dans une dynamique de...
De créer notre propre association. Auto-organisation, d'accord. Auto-contrôle, etc. D'autre côté, et la majorité des chefs religieux mm-hmm. viennent du système coranique, qui est le système top-down, comme à l'école. Donc, de la première année à l'université, il y a une ligne, etc. Et quand nous, on a commencé à relire le Coran, mais ils nous ont trouvés comme des gens qui voulaient quand même amener de n'importe quoi. La réélecture du Coran, ce n'est pas du domaine des hommes. Le Coran est fait une fois, c'est fini. Nous, on n'a pas dit qu'on va réécrire le Coran. On a dit qu'on va relire. Et donc, pour eux, ça même, c'est des attitudes de remettre en cause le Coran. Bon, donc, il y avait aussi un mur du côté des vieux. Et du côté de l'État. Bon, évidemment, on a cheminé doucement, parce que, bon, c'est nous, dans nous, on n'a pas besoin de faire trop de problèmes, jusqu'à ce que, dans nos activités, les gens ont vu qu'on était en train de nous occuper quand même des problèmes. Donc, c'était des périodes où il n'y avait pas l'eau potable. C'était très difficile de l'avoir. La santé, c'était très compliqué de se soigner. Et même l'instruction, il n'y avait pas d'école développée partout. Donc, on a commencé à nous occuper des questions concrètes de vie des gens. Et à partir de là, bon, les choses ont été apaisées. Et comme en 73, il y a eu la grande sécheresse, puis en 74, puis en 84, en 85, il y a eu la crise mondiale du pétrole, etc. Donc, les gouvernements n'avaient plus les ressources financières et matérielles pour continuer l'encadrement du monde rural. Alors, ils ont fait appel à la Banque mondiale, au FMI. Mm-hmm. Et le FMI, vous connaissez, c'est la camisole de force. On vous met la camisole par rapport aux objectifs du système néolibéral. Et donc, quand les gouvernements font appel au FMI, le FMI sait qu'ils sont presque au bord du gouffre. Donc, ils n'ont plus beaucoup de capacité de réagir. Mm-hmm. Ils prennent tout ce qu'on leur propose parce que le FMI amenait de l'argent frais qui permettait au gouvernement de payer les fonctionnaires, etc. Donc, de rester à son poste. Mais ce n'était pas pour le développement du pays. Et donc, C'était une occasion, comme je l'ai dit, il y avait dans plusieurs parties du Sénégal des gens qui réfléchissaient. Et en allant dans la capitale, parce que tout le monde va là-bas, c'est le système français centralisé, et on s'est rencontrés, on s'est parlé, et on a vu qu'on était dans des choses à peu près pareilles. Donc une auto-analyse pour pouvoir définir une association, etc. Et on a dit, mais pourquoi on ne se mettrait pas ensemble? Parce que, quand même, on est dans un même pays, face à un même gouvernement. Et donc, il serait bon, si on veut faire beaucoup d'avancées, qu'on s'entende. Et donc, c'est comme ça que, avec des ONG, qui étaient aussi venues avec la grande sécheresse pour distribuer l'aide alimentaire, mais dans les contacts avec nous, ils ont vu que la solution, ce n'est pas de distribuer de l'aide alimentaire. C'est de faire en sorte que les gens s'occupent de leurs affaires et de les appuyer. Et donc, il y a eu la FONCS qui est née, c'est la Fédération des ONG. Mais c'était surtout une fédération des organisations paysannes. Alors, donc, c'était à peu près pour cacher un peu, parce qu'il faut faire des choses qui peuvent être comprises. Et donc, à travers cette organisation, nous avons mis le débat sur notre spécificité. Nous sommes des membres des exploitations familiales agricoles. 99% de toute la production agricole du Sénégal, ce sont les familles.
Mm-hmm.
Alors, donc, ça, nous devons mettre ça comme le premier pilier de notre mouvement. Cette exploitation familiale, qui produit de la nourriture depuis les milliers d'années, depuis que l'agriculture a existé, elle a pu surmonter toutes les crises. Donc, elle a un contenu, elle a des valeurs et elle doit être protégée par nous qui sommes les membres. Donc, à la FONCS, on a mis ça comme on a mis. Et on a dit que cette exploitation familiale n'est pas seulement dans la production. Si nos langues nationales continuent d'être parlées, c'est parce qu'on les parle dans ces familles. Mmh. Qui en ont fait des challenges. Parce qu'à l'école, il est interdit de parler les langues locales.
Ah, tu vois.
C'est interdit. C'est interdit. On ne peut pas parler la langue locale. Parce que quand les Européens sont venus, ils ont dit qu'ils ont trouvé des corps en mouvement sans âme. Qu'on n'avait pas de culture. Alors donc, les gens, bon, comme ils n'avaient pas la puissance militaire, ils se sont renfermés sur eux. Donc, ils ont sauvegardé leur langue parce que la langue est le moteur de toute la culture. C'est dans la langue qu'il y a les valeurs. C'est dans la langue qu'il y a l'identité. Quand tu perds ta langue, tu perds ton âme. Tu ne deviens plus rien. Parce que tes références sont la langue qui s'est imposée à toi. Et c'est pourquoi l'exploitation familiale n'est pas seulement de produire à manger. Il le fait. C'est pourquoi nous disons que c'est une entreprise multifonctionnelle, culturelle, sociale, économique, financière, dans la manière dont nous faisons la solidarité. Et donc, on ne peut pas remplacer cela par produire de la pomme de terre, produire seulement telle chose. Nous produisons tout ce que notre zone agroécologique nous permet. Quand vous êtes dans un endroit où il y a le fleuve, nous faisons la pêche, nous faisons l'agriculture, nous faisons l'horticulture, parce qu'on utilise toutes les ressources naturelles. Et c'est aussi pour respecter le principe, on ne met pas tous ses billes dans un même panier. Donc, on a dit que nous allons défendre cela. Et deuxième élément, nous avons dit que tout le système a été bâti contre cette exploitation familiale. Il faut maintenant revenir là-dessus. En fonction de cette multifonctionnalité, qu'on trouve des programmes et des politiques qui répondent à cela. Donc, ce n'est plus augmenter seulement la production. C'est qu'on sait que l'exploitation familiale a besoin de développement rural et non de programmes de production de maïs ou de coton, etc. Donc voilà un peu les éléments qui ont fait la différence. Alors que les coopératives ont été créées pour augmenter la production. Nous nous disons, oui, on doit produire, on doit manger. Mais nous ne pouvons pas être seulement des gratteurs de terre. Nous avons d'autres fonctions. Nous devons organiser nos mariages à travers nos valeurs culturelles, et on ne peut pas séparer la provenance des semences. Toutes les semences viennent de la biodiversité.
Mm-hmm.
Elles ont été transformées dans le savoir paysan pour faire les valeurs culinaires. Et tout cela fait partie de l'identité. Quand vous allez dans certaines régions, tout de suite, on va dire, vous allez manger telle chose. Donc, les terroirs sont liés à des systèmes de production, à des produits, à des plats, à une alimentation. Et c'est ça qui fait la richesse de ce monde. Des milliers de terroirs, des milliers d'histoires, des milliers de ressources, des milliers de savoirs et de savoir-faire. Et donc, notre association, notre mouvement, et c'est pourquoi on n'a pas voulu être autre chose qu'un mouvement social, rural, paysan. Parce que nous voulons que toutes les richesses des sociétés rurales puissent être sauvegardées et qu'ensemble, nous nous battons contre ce qui n'est pas bon dedans, parce qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà donc ce qu'on a essayé de raconter. Et c'est ça qui, de partout, et au Sénégal, au Burkina, au Niger, au Mali, nous nous sommes petit à petit rencontrés dans des échanges et nous avons dit il nous faut toujours nous retrouver pour nous ouvrir, pour pouvoir avancer, parce que nous avons le même destin. C'est-à-dire, nous sommes en face des États, nous sommes en face des opérateurs, nous sommes en face des banquiers, en face des groupes qui sont dans la recherche maximum de profit, uniquement orientés sur le minimum de dépenses, au détriment de tout. Nous disons la moyenne à la majorité pour que la vie soit partagée dans la joie. Et donc, ces deux types de voir le monde font que si on ne se réunit pas, si on ne devient pas plus fort dans la solidarité, et cela aussi demande de débattre, parce que cette multitude de terroirs, c'est aussi des multitudes de problèmes différents que nous devons gérer entre nous. Voilà.
Juste un mot là pour avant de conclure, ces pouvoirs en place, ces oppositions. Alors, il a dû y avoir des difficultés au début, et peut-être ça a changé après, je ne sais pas. Dites-nous un peu comment, soit au Sénégal, soit ailleurs, ouais, comment vous avez été perçu par les gens en place qui faisaient autre chose, et puis comment vous avez pu, disons, dépasser un peu ces difficultés-là, et comment vous êtes vu aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, nous avons utilisé leurs armes pour négocier avec eux, c'est-à-dire les analyses, les propositions.
Mmh.
C'est ça que nous avons utilisé. Et également la communication traditionnelle avec la base. Et les gens, petit à petit, ont dit ce qu'on est en train de faire, c'est ça qu'il nous fallait depuis longtemps. Et vous savez, les politiques, bon, ils sont au courant de tout.
Ouais.
Et même la Banque mondiale, avec qui nous avons eu des relations, a compris que nous ne sommes pas des communistes. Parce que c'est ça qui était le danger. Nous sommes des citoyens qui disent qu'il faut vivre autrement et qu'on ne peut pas fonctionner uniquement avec des indicateurs. Parce que chaque indicateur vient d'un système. Les systèmes, c'est-à-dire quand l'indicateur économique, c'est pour voir le capital, comment on l'augmente. Nous disons, amenons l'indicateur de la stabilité, l'indicateur du fait que les gens s'entendent et se comprennent. Ils n'ont pas ça dans leur calcul.
Oui.
Et donc, quand on s'assoit, ça devient difficile. Mais ils n'ont pas d'argument pour dire que nos indicateurs sont de la folie. Et donc, petit à petit, évidemment, comme je vous l'ai dit, avec la force de la crise qui fait que les gouvernements n'ont pas beaucoup de moyens, mais beaucoup de leaders politiques également été frustrés de voir qu'ils ne pouvaient plus apporter l'aide à leurs membres. Donc quand ils ont vu ce mouvement, ils ont dit au moins, avec eux, on peut bâtir des consensus pour freiner ou diminuer la force destructive. Donc on a des difficultés de départ, on a pu mettre sur la table des mécanismes de partenariat. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'au niveau régional, la CEDEAO,
oui.
Où quand l'Union européenne a dit qu'on va négocier les APE accord de partenariat économique,
oui,
on a fait des propositions concrètes pour convaincre nos chefs d'État qu'on ne pouvait pas signer tout de suite parce qu'on n'était pas prêt. Et les chefs d'État ont dit, les arguments que vous avez donnés ont de la valeur, donc on va prendre le temps pour approfondir. Bon, parce que tout simplement, c'est rare de voir un chef d'État qui n'aime pas son peuple, ou bien, bon, je pense que bon, il peut avoir beaucoup de défauts, mais c'est difficile de qu'un chef d'État soit l'ennemi de son peuple. Et donc, comme il y a des difficultés d'arriver à eux, très souvent c'est ça, le fossé entre là où ils sont et là où nous sommes, parce qu'ils sont bien gardés, parce qu'on pense que tout le monde veut les tuer. Bon, et donc, mais chaque fois qu'on est arrivé à eux, on a pu changer les choses. Alors, donc, pour conclure, ce que nous avons voulu faire, c'est tout simplement montrer que la durabilité de la richesse, des savoirs, dépend de son accessibilité, de leur accessibilité à la majorité. Si la majorité ne peut pas être dans de bonnes conditions, la minorité qui pense qu'elle peut trouver les conditions pour dominer tout va être un jour au pied du mur. C'est ce qu'on a voulu démontrer et aujourd'hui ça marche. Merci bien.
Merci, merci.
Merci bien, Mamadou.
Je voulais juste dire que bon, le livre de Mamadou est donc disponible dans les librairies, mais aussi sur la bibliothèque de l'association Parole des Paysans du Monde. Et il y a également d'autres informations que les personnes qui veulent s'intéresser, disons, au prix Louis Malassi peuvent trouver. Alors, je rappelle l'adresse de l'association, c'est Paysans du Monde, paysans au pluriel, paysans du monde en un seul mot, .iamm.fr. Merci.
Merci.
Ecco, era la cronica di letteratura paesana presentata per Mahmoud Alaya.